Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est le meurtre d'un archevêque sur l'autel de sa cathédrale que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'était un 29 décembre. Le 29 décembre 1170, l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket, était assassiné en effet. Ce crime, l'un des plus célèbres du Moyen-Âge, nous replonge dans une Angleterre qui est un petit peu celle d'Ivan Noé et de Robin des Bois, si vous voulez. Pour en parler, j'ai convié à nous rejoindre un grand connaisseur des Plantagenets, le professeur Martin Aurel, qui nous avait accompagné jadis à l'abbaye de Fontevraud, notamment.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Lorraine sur l'origine de la béatification et de la canonisation dans l'Église catholique.
Vous sentez le parfum d'encens qui se répand dans ce studio, Anissa. Il ne parvient pas cependant à masquer celui du soufre.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Je parlais à l'instant de l'Angleterre d'Ivan Noé et de Robin des Bois. Disons que c'est une Angleterre à la fois courtoise et brutale, pleine d'archers, de potences, de belles princesses et de pigeons voyageurs que je vous propose cet après-midi. Nous sommes en plein XIIe siècle, dans un univers à la fois sombre et lumineux, tout de même très différent du nôtre. Vous savez qu'en général, je n'insiste pas sur les distances qui nous séparent des époques que nous pouvons traverser ensemble. Seulement, parfois, j'ai des remords, je me dis, mais je ne leur ai pas assez fait sentir le parfum du temps et des lieux. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous vous laissiez transporter dans ce monde de frère Tuck et du shérif de Nottingham. Dites-vous qu'il y a moins de 100 ans alors, Guillaume de Normandie, ce géant dont nous avons parlé par ailleurs, a fait main basse sur le pays. Il a mêlé la romanité franco-normande aux traditions saxonnes du terroir anglais pour créer une nouvelle culture très féconde, cette culture anglo-normande sur laquelle nous aurons tout à l'heure l'occasion de revenir. Seulement, depuis, les Anglais, comme en retour, ont pris pied sur le continent. L'actuel souverain d'Angleterre, Henri II Plantagenet, règne aussi sur la Normandie, sur une partie de la Bretagne, sur l'Anjou, le Maine, la Guyenne, vous imaginez. Or, ce roi très puissant a comme ami intime et comme principal conseiller un homme, Thomas Becket. Thomas Becket, on le dit, sorti de pas grand-chose. En fait, laissez-moi vous raconter d'où il vient exactement, ce personnage. Vous allez voir, ça vaut la peine. Le père de Thomas, Gilbert Becket, était un brave bourgeois de Londres qui s'en est allé en Terre Sainte dans les premières années du siècle et à la suite de tout un tas de déconvenues que je n'ai pas le temps de vous raconter là maintenant, il est devenu là-bas l'esclave d'un musulman. Or, ce dernier avait une fille, vous commencez à me voir venir, la fille n'a pas tardé à tomber sous le charme de l'anglais. Poussée par l'amour, elle a aidé l'esclave à se libérer de ses chaînes et à prendre la poudre d'escampette. Gilbert rentre chez lui comme il peut. Or, il est de retour à Londres depuis un moment quand il voit débarquer chez lui son amoureuse et libératrice. Figurez-vous que la jeune fille, qui ne connaissait que deux mots en dehors de l'arabe, London et Gilbert, eh bien néanmoins, elle est parvenue toute seule à traverser tout l'ancien monde pour aller le retrouver. Je ne connais pas beaucoup d'histoires plus romanesques que celle-là. Je ne vous garantis pas son authenticité, mais en tout cas, c'est ce qu'on racontait à l'époque. Et la voilà donc, cette belle orientale qui, convertie, mariée, donne à Gilbert un fils, Thomas. Cet enfant naît sous une étoile extraordinaire. Il va bénéficier de grandes protections. Il se montrera très vite aussi agile de corps que d'esprit. Il est pris en charge par les clercs de Canterbury. Il est ordonné diacre dans leur église, qui est l'église où Henri Plantagenet va finir par le remarquer, par le prendre en sympathie, puis en amitié chaleureuse. Après en avoir fait le précepteur et le maître d'armes de son fils aîné, il le prend pour conseiller privé dès les premières années de son règne. Voilà Thomas nommé chancelier en 1155, Thomas Becket, fils d'un aventurier londonien et d'une convertie récente et qui désormais peut faire figure de grand du royaume. Et vous pouvez lui faire confiance pour se couler dans le personnage et pour adopter d'emblée le train de vie qui convient à sa dignité toute neuve. Thomas aime passionnément la chasse. Il collectionne les meilleurs chiens courants, les oiseaux de vol les mieux dressés. Il passe des heures à table, il multiplie les festins somptueux. Il apprécie les femmes en connaisseur, il n'est jamais à court de jeunes beautés conciliantes, on peut dire que c'est une véritable cour qui se déploie dans le sillage de Thomas Becket. Autant dire que l'homme est un bon vivant, ce qui ne l'empêche pas de tirer l'épée à l'occasion, et mieux que quiconque, et surtout de maîtriser supérieurement les questions politiques. Car si Thomas Becket est affamé de plaisir, il l'est bien plus encore du seul plaisir dont on dit qu'il ne lasse jamais, le pouvoir. D'instinct, le chancelier comprend, vous savez, il fait partie de ces gens qui ont le sens des rapports de force, des stratégies, il sait fixer les objectifs, il sait choisir les moyens pour les atteindre, et sans lui, on pourrait dire que le roi Henri II irait moins vite et moins loin. Or, ce nouveau roi d'Angleterre a beaucoup à faire, et c'est ici qu'il faut que je vous explique un peu sa situation très particulière. À la mort de Henri Ier, dit Beauclerc, c'est bel et bien sa fille Mathilde qui aurait dû monter sur le trône. Seulement, voilà, les barons d'Angleterre ont préféré un seigneur malléable et docile, Étienne. Mathilde a refusé de s'avouer vaincue. Elle a beaucoup travaillé par la suite à convaincre ce roi Étienne de faire de son fils Henri son successeur. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Entre-temps, cette querelle dynastique a semé la guerre civile en Angleterre, et le jour où Henri II monte sur le trône, en 1152, le royaume n'est que désordre, anarchie. Toute sa vie, Henri II Plantagenet la consacrera dès lors à se battre pour asseoir sa légitimité royale et pour rétablir l'autorité monarchique, notamment dans les deux grands domaines qui importent d'abord au gouvernement d'un État, la maîtrise des finances et l'organisation de la justice. C'est dans cette œuvre de restauration qu'on va voir Thomas Becket faire merveille. Il dispose d'une autorité, d'une efficacité, d'une lucidité qui ne sont pas celles du commun des mortels. Et l'on peut dire que Thomas va permettre assez vite à la couronne de retrouver son lustre, son prestige, en quelques années seulement. Cette reprise en main du pouvoir s'effectue contre l'autre pouvoir possible. Le seul concurrent sérieux du trône, c'est évidemment l'autel, c'est l'Église, qui n'est pas encore l'Église séparée d'Angleterre, mais qui est l'Église en Angleterre, aux volontés de la couronne, bien entendu. Mauvais calcul, calcul épouvantable en vérité, qui nous prouve que si Henri II est sans doute un bon administrateur, en revanche il est sans doute aussi un piètre psychologue. Il devrait savoir qu'un homme de pouvoir, quand il a cela dans le sang, sert toujours en priorité ce qui peut conforter sa puissance. Jusqu'ici, Thomas tenait toute sa situation du roi Henri, donc il servait aveuglément les intérêts du roi. À partir du moment où lui-même va devenir le principal représentant en Angleterre de l'Église catholique, puisqu'il vient d'être nommé archevêque, il va se mettre à servir d'abord l'Église catholique, même s'il lui faut pour cela renier plus ou moins son amitié et sa gratitude envers Henri II. À partir du moment où vous avez un roi contre un archevêque, on peut dire que les choses se compliquent.
La bande originale du film Becket, sorti en 1964, avec Richard Burton dans le rôle de Thomas Becket et qui est une adaptation de Becket ou l'honneur de Dieu de Jean Anouilh. Cet après-midi, Franck Ferrand, sur Europe 1, vous nous racontez l'un des plus célèbres crimes du Moyen-Âge, l'assassinat de Thomas Becket.
Oui, je vous ai dit tout à l'heure que ce Thomas avait l'art de se couler dans le rôle qu'on lui confiait. Hier encore, il était un seigneur bon vivant, volontiers paillard, qui menait la vie dure à l'église, sans d'ailleurs observer tellement ses préceptes. Mais puisque maintenant on l'a nommé archevêque, il va devoir s'adapter. Et c'est un tout autre homme qui se glisse dans la peau et dans les attributs de l'archevêque de Canterbury. Il est ordonné prêtre le samedi 2 juin. Il est consacré archevêque le lendemain, dimanche 3. On appelle ça brûler les étapes, hein, quand même. Le 3 juin, c'est la Pentecôte, ça tombe bien. Et le lundi 4, il devient donc Plus du tout un seigneur paillard. Ça devient un religieux, sobre, droit dans sa vie personnelle, plein de ferveur dans la prière, bien décidé à montrer l'exemple à ses ouailles, à ses millions d'ouailles. Vous voulez que je vous dise le problème avec Thomas Becket? C'est qu'il prend tout au sérieux. Dans un premier temps, Henri II était tout content de voir son ami coiffé de la mitre. Il tente de maintenir entre eux cette vieille complicité qui, par le passé, avait fait merveille. Seulement là, il va tomber sur un os. Maintenant que Thomas est lui-même prince, certes de l'Église, mais prince tout de même, c'est tout juste s'il reconnaît son roi. Il faut l'appeler Monseigneur, et ce n'est qu'un début. Quelques jours seulement après sa consécration, Thomas adresse des messagers au pape Alexandre III, qui vient de s'installer provisoirement à Montpellier. Il s'agit de lui réclamer le pallium. Le pallium, c'est un ornement vestimentaire symbolique que porte le Saint-Père, ainsi qu'un certain nombre de prélats, mais très rares, que le Saint-Père veut honorer. Naturellement, Thomas argumente. Cette haute distinction pontificale aurait l'avantage, dit-il, de souligner aux yeux du monde que le pape lui-même approuve son élection. C'est quand même demander beaucoup d'un seul coup. Le pape doit trouver que ce nouvel archevêque ne manque pas de souffle quand même. Mais, contre toute attente, il accorde le pallium, qui arrivera le 10 août à Canterbury, où Thomas l'accueille avec une grande humilité. Il est sorti lui-même sur le parvis, entouré de tout son chapitre, bien sûr, tout le monde est pieds nus. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le pape accède-t-il si facilement aux prétentions du nouvel élu? Eh bien, il faut faire ici un petit point sur la situation religieuse de l'époque. Comme vient de le décrire Georges Suffert dans un bel ouvrage sur le sujet, on y reviendra tout à l'heure, l'Europe chrétienne est divisée à l'époque par un schisme. Le pape Alexandre III se trouve concurrencé par un pseudo-pape, je me méfie de l'appellation anti-pape, qui se fait appeler Victor IV et qui bénéficie du soutien de l'empereur germanique Frédéric de Barberousse. Et dans ce contexte, vous imaginez l'importance d'une église aussi puissante que celle d'Angleterre, qui est courtisée par les Allemands et qui, dans le même temps, subit les velléités de contrôle et d'autonomie de la couronne britannique. À l'évidence, Thomas Becket est devenu un pivot de l'équilibre européen et le pape a tout intérêt à le choyer et à flatter sa trop visible vanité. Au printemps 1163, Alexandre III réunit un concile à Tours. Il prend grand soin d'asseoir Thomas Becket à sa droite, ce qui, entre parenthèses, froisse le doyen des prélats anglais, l'archevêque d'York. L'empereur Frédéric fronce les sourcils. Le rapprochement est maintenant officiel entre les prélats anglais et ce poulain, Victor IV. Quant à Henri II Plantagenet, eh bien, il feint la bienveillance ou tout au moins l'indifférence. En réalité, la moutarde lui monte au nez. Il ne reconnaît plus, mais alors plus du tout, son ami et complice de naguère. Pour tout vous dire, cette transformation un peu rapide de la chenille en papillon, à moins que ce ne soit le contraire d'ailleurs, l'exaspère encore plus qu'elle ne le déroute. Le roi d'Angleterre estime que le moment est venu de tester son ancien chancelier devenu primat d'Angleterre. Et le 1er octobre, il réunit donc à Westminster les barons, les grands clercs du royaume, pour débattre d'une question qui peut paraître secondaire, mais qui en fait se trouve au centre des rapports entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, c'est celui des tribunaux ecclésiastiques qui, par tradition, jugent des affaires criminelles en premier sort. Le roi s'emporte contre le laxisme de ses cours religieuses. Il déclare que désormais tout justiciable qui ne sera pas acquitté à l'échelon ecclésiastique sera rejugé en deuxième instance par un tribunal civil et condamné selon des lois qui sont des lois à l'échelle de tout le royaume. Ça, on peut dire que c'est un pavé dans la mare de l'épiscopat, ou en tout cas une pierre dans le jardin des évêques qui échangent des regards inquiets. Henri II observe son vieil ami. Est-ce que Thomas va le soutenir dans ce nouveau combat pour la souveraineté de la couronne? Eh bien, non seulement Thomas ne le soutient pas, mais il se lève au contraire pour protester solennellement contre la déclaration royale. « Pas question, dit-il, que le clergé d'Angleterre cède un pouce de ses prérogatives judiciaires. » Il a peut-être oublié qu'il l'avait fait archevêque, ce prélat. C'est assez étrange, hein, c'est un autre homme, tout simplement. Henri II se mord les lèvres et attend son heure. En janvier 1164, il réunit de nouveau une haute assemblée de barons et de prélats à Clarendon, près de Salisbury, et cette fois, il réclame clairement que l'épiscopat se soumette aux coutumes établies sous le règne du grand Henri Ier. Vous imaginez les murmures sur les bancs du clergé. La réponse un peu molle, flottante, des princes de l'Église, fort bien. Alors que le roi mette par écrit la teneur de ses coutumes orales, et puis, une fois que ce sera fait, ben ma foi, ben on en reparlera. Henri se dit qu'il va triompher. En effet, il avait prévu la réaction des évêques. Et, dans la foulée sans attendre, il brandit une charte en 16 points qui restera dans l'histoire sous le nom de charte de Clarendon. Thomas Becket est un peu surpris. On a joué un coup d'avance là sur lui. Seulement, il est beaucoup trop fin pour s'opposer frontalement à l'ensemble de la charte. Il va chercher à faire le tri entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Henri constate que l'épiscopat, presque unanime, je dis presque parce qu'il faut toujours faire la part de l'archevêque d'York et de ses partisans, l'épiscopat presque unanime donc, est derrière Thomas Becket. Il feint de s'incliner, mais il n'en est plus à se mordre la lèvre. Là, j'imagine qu'il doit serrer les dents maintenant. À présent, il regrette d'avoir nourri un serpent dans son sein. Il a placé à Canterbury un homme qui se révèle pire qu'un ingrat, qui est en train de devenir un ennemi. Vous imaginez cette amitié si profonde qui est en train de tourner à la haine, une haine implacable. Octobre 1164, nouvelle assemblée à Northampton cette fois, et sans Thomas Becket, il s'agit officiellement de régler un conflit mineur d'attribution entre juridiction épiscopale et juridiction royale, peu importe. En fait, l'intention d'Henri est de marquer un grand coup en faisant condamner Thomas Becket pour non-respect de la fameuse charte de Clarendon. Seulement voilà, au moment où le verdict va être prononcé, l'archevêque de Canterbury se présente en personne devant l'Assemblée. Il est là, rayonnant, très fort, très sûr de lui, dans ses attributs pontificaux, et il déclare illégal le jugement de la cour royale. Il fait appel au siège apostolique, c'est-à-dire à Rome, au pape. Mais alors que faire ? Henri II, Plantagenet, demeure silencieux, et tandis que Thomas, sans être inquiété par les gardes du roi, ressort sous les acclamations du peuple qui adore les personnages capables de se dresser contre la couronne, le roi d'Angleterre, les larmes aux yeux, ne songe plus maintenant qu'à se venger.
L'histoire de Thomas Becket, cet archevêque qui a été tué sur l'autel de sa cathédrale, c'est ce que vous raconte Franck Ferrand cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission avec Twitter et le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous sommes au XIIe siècle cet après-midi sur Europe 1. Nous faisons connaissance avec l'archevêque Thomas Becket qui a été assassiné en 1170 et qui était en vrai désaccord avec le roi.
Oui, alors là pour l'instant nous sommes en 1163. On peut dire que Thomas Becket est allé très loin. D'ailleurs il en est conscient lui-même. Maintenant sa vie est en danger et dès la nuit tombée, il gagne la côte au grand galop. Il embarque pour le continent. On peut dire que cette traversée de la Manche pour lui, c'est un petit peu son Rubicon. C'est le point de non-retour. Désormais, il est dit que l'archevêque de Canterbury est rebelle au roi d'Angleterre. Le 2 novembre 1163, il débarque à Gravelines, dans le comté de Boulogne, c'est-à-dire un territoire sous l'influence d'Henri. Il faut faire vite, gagner le plus rapidement possible les terres sauves de France. Naturellement, Henri a fait savoir à son cousin, le roi de France, Louis VII, mais vous savez qu'ils ont un rapport un peu particulier puisque l'un a épousé l'ancienne femme de l'autre hein, tout de même, il lui a fait savoir qu'il verrait comme un acte inamical l'accueil du fugitif à sa cour. Seulement de son côté, Thomas dispose à Paris de contacts fiables et bien placés qui ont préparé le terrain. Et non seulement le roi donne l'hospitalité aux réfugiés, mais il va jusqu'à se porter à sa rencontre, à Soissons. C'est un détail peut-être, mais c'est important. Ça nous permet de réaliser l'importance considérable qu'avait acquise Thomas Becket à cette époque-là. Il est devenu en quelques mois l'un des enjeux de la grande diplomatie européenne. Désormais, l'archevêque de Canterbury va donc vivre en exil. Il bénéficie de ce que nous appellerions-nous aujourd'hui l'asile politique. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais ça me fait un petit peu penser à ce qui s'était passé avec l'ayatollah Khomeini en France en 1978-79. Toute proportion gardée, bien entendu, mais le prélat exilé dès qu'il est en France va essayer de mettre de son côté tous ceux qui ont de bonnes raisons de s'opposer à Henri II, bien entendu. Une partie du clergé s'est rangée derrière l'archevêque d'York, donc du roi Henri, mais la majorité continue à soutenir Thomas. Pour des millions de fidèles, il est devenu le symbole de la fidélité à Rome, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout celui de la résistance au pouvoir de plus en plus pesant d'Henri II. Il faudra que nous y venions tout à l'heure. Thomas Becket feint de calmer le jeu. C'est vrai qu'il rencontre le pape à Sens et qu'il obtient du souverain pontife la condamnation des 2/3 des articles de la charte de Clarendon. Mais c'est aussi une vérité qu'il propose au pape de lui remettre sa charge de primat d'Angleterre et que c'est Alexandre III qui la refuse. Puisqu'il lui faut vivre en exil, Thomas s'installe chez les moines cisterciens de Pontigny, histoire de peaufiner son image de grand ascète, presque mystique à la limite de l'ermite. Alors, je dis moi son image, nous verrons que notre invité n'est pas de cet avis, et que c'est peut-être au-delà de l'image, la vérité même du personnage. On va en juger dans un instant. Il aura le temps, en tout cas, de vivre sa foi, puisque ça va quand même durer près de 7 ans, cette histoire. Et finalement, la diplomatie aidant, le pape menaçant le roi Henri d'excommunication, ce qui à l'époque est tout sauf une péripétie, les deux hommes, les deux amis d'hier, les deux complices de la grande époque vont se retrouver à Frédéval, près de Vendôme, à l'été 1170. Le roi et l'archevêque se donnent l'accolade, on aurait aimé être petite souris ce jour-là. Henri II s'engage devant une foule émue à rendre à Thomas Becket son diocèse et tous ses bénéfices. Quant à Thomas, il veut bien lui donner sa bénédiction. Bon, ben on se dit, ben voilà, le récit d'aujourd'hui est terminé, tout est bien, qui finit bien. Non. Je vous l'ai dit, le problème avec Thomas Becket, c'est qu'il prend toujours tout au sérieux. À son retour en Angleterre, les choses changent. Il devient une sorte de, j'allais dire de messie, le mot est peut-être un petit peu fort, mais c'est un peu une entrée dans Jérusalem qu'il fait néanmoins. Partout, ce ne sont que haies de palmes jonchées de roses, encensements infinis, et Henri II grince des dents. Vous pouvez faire confiance à Roger de Pont-l'Évêque, à l'archevêque d'York, pour souffler sur les braises royales, bien entendu. Des émissaires du roi, au nom des évêques excommuniés, viennent-ils demander à Thomas la levée de cette sanction spirituelle? Et Thomas leur explique que le pouvoir d'excommunier comme celui de pardonner n'appartiennent qu'au pape et que lui ne peut pas les aider. La plupart comprennent le message et préfèrent quitter l'Angleterre pour aller se mettre au vert. Depuis les côtes normandes où il se trouve, il est près de Bayeux. Le roi Henri commence à comprendre le rapport de force qui est en train de s'inverser. Et bien sûr, il est le seul roi. Bien sûr, le pape est contraint de le ménager. Bien sûr, l'empereur germanique s'efforce de le séduire pour les raisons que je vous ai dites. Mais Thomas, lui, a dans son camp, si je puis dire, le peuple. Un peuple chauffé à blanc. Il a surtout pour lui la foi qui dans son sillage paraît déplacer les montagnes. Et si, après avoir si bien contribué à renforcer son trône, ce parvenu de malheur se mettait à le fragiliser? Vous imaginez les idées, les pensées d'Henri à ce moment-là. Henri, au cours d'un dîner public, dit « Ainsi donc, personne ne va me débarrasser de cet impudent félon !» Personne ? Oh, mais si, bien sûr. Vous savez, lorsqu'un roi émet un désir, il arrive que ce désir devienne un ordre. Et pour 4 jeunes seigneurs, Renaud, Guillaume, Hugues et Richard, cet avis du roi devient quasiment un ordre de mission. Puisqu'il faut débarrasser l'Angleterre de l'archevêque de Canterbury, eh bien, ma foi, ils vont s'en charger. Bonjour Martin Aurel. Merci Bonjour. Beaucoup d'être avec nous. Alors, nous allons assister ensemble, si je puis dire, à l'assassinat de Thomas Becket. Après quoi, nous reviendrons sur tous les tenants et les aboutissants d'une affaire moins simple qu'elle n'en a l'air.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Aujourd'hui, vous recevez Martin Aurel, professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Poitiers, où il dirige le centre d'études supérieures de civilisation médiévale et auteur de l'Empire des Plantagenets, 1154-1224. Et ça y est, aujourd'hui, nous parlons de Thomas Becket, l'archevêque. La tension était désormais trop grande entre le roi et l'archevêque. Nous en sommes arrivés au drame.
Et oui, car les 4 jeunes seigneurs, alors ils s'appellent Renaud, fils d'Our, Guillaume de Tracy, Hugues de Morville et Richard Le Berton, c'est bien ça, qu'ils retraversent la Manche eux aussi et qu'ils se présentent à Canterbury et qu'ils ont bien l'intention d'en découdre avec l'archevêque Martin Aurel.
Oui, ils arrivent toutes brides abattues le matin dans le palais archiépiscopal de Canterbury. Becket est en réunion avec ses chanoines, il veut les recevoir, il les reçoit, il discute avec eux et ils sont très fermes, ils veulent qu'ils lèvent les excommunications contre les archevêques, les évêques d'Angleterre, comme vous l'avez dit, c'est impossible, cela relève du pape, il leur dit aussitôt, si vous me cherchez, vous m'aurez là, et il leur signale du doigt son propre cou. Autrement dit, cet homme va presque vers le martyr volontairement. C'est assez surprenant.
Il livre son cou à l'épée des spadassins, en fait.
Oui, pratiquement, puisque les membres de son entourage lui disent « Mais enfin, fermons les portes. Ce palais peut être très bien protégé. » Il dit non. La maison de Dieu est ouverte à tout le monde. Et le soir, au moment des vêpres, alors qu'on est dans l'octave de Noël, comme vous l'avez dit, les gens sont heureux de revoir leur propre archevêque, la cathédrale est archi-comble, c'est à ces moments-là, alors qu'il est en train de se revêtir des ornements sacerdotaux pour les vêpres, dans la sacristie, qu'ils font irruption et qu'ils le menacent. Ces hommes sont arrivés parfaitement habillés en tant que chevaliers, armés, le homme, le haubert, la côte de maille, et puis armé et d'une hache et de l'épée. Donc ils sont
plus que très menaçants là.
Voilà, menaçants et puis fiers de ce qu'ils sont. Ce sont des aristocrates, ce sont des guerriers, des chevaliers. Quand Henri a dit, le roi Henri, qu'il voulait la peau de Becket, il a dit « Débarrassez-moi de ce plébéien de peu ». Becket, vous l'avez bien dit, c'est un homme qui sort un peu du ruisseau. Il y a ce côté haine de classe de la part de ces nobles, de ces seigneurs qui veulent en découdre.
Ils vont lui apprendre à ce fils du peuple dont on ne sait pas exactement d'où il sort, à se prendre pour l'archevêque de Canterbury. C'est un peu ça l'idée. En face, on est en présence d'un homme qui est quasiment dans un état second quand même. Est-ce qu'on peut dire qu'il est quasiment illuminé à ce moment-là, Thomas Becket?
C'est difficile de savoir. Je pense que cet homme est profondément religieux. Il s'est converti, vous l'avez bien dit, c'était un homme plutôt mondain, un clerc qui aimait les fêtes, qui gaspillait beaucoup, un parvenu, oui, qui jetait l'argent par les fenêtres. Et puis tout à coup, il est ordonné prêtre, il est ordonné...
À toute vitesse, il devient archevêque du jour au lendemain.
Du jour au lendemain, il y a une conversion. Puis nous avons beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que l'Église au Moyen-Âge. Vous savez, ce qui relève de la santé, de l'éducation, de l'assistance... Tout cela est entre les mains de l'Église, donc ces gens sont conscients aussi que socialement, ils ont un rôle très important à jouer. Ce n'est pas le roi qui va fonder des hôpitaux ou des écoles. Il est là, très imbu de sa charge, c'est vrai, très conscient de ce qu'il représente. C'est le primat de l'Église d'Angleterre et il va vers le martyr. Alors, il leur dit il est prêt à donner sa vie. Et ils sortent sur le transept de l'église, donc tout le monde les voit.
On est là vraiment dans la cathédrale elle-même, on n'est même plus dans la sacristie.
Tout à fait, il est sorti dans la cathédrale.
On approche du chœur.
On approche du chœur. Quelques compagnons des chevaliers se mettent entre la foule et l'archevêque. Et puis les quatre guerriers commencent à asséner deux coups. Le premier est Reynaud Fitzurs qui lui donne un coup à un endroit très précis. Parce qu'il y a un côté très symbolique dans l'accomplissement de ces crimes. Il frappe au crâne, à la couronne, c'est-à-dire à la tonsure. La tonsure, ce sont ses cheveux qui ont été coupés, même un peu de cuir chevelu aussi, au moment de l'entrée dans le clergé, qui symbolise la condition cléricale de ces gens et aussi la couronne au sens sacerdoce royal. Vous voyez, c'est là qu'il a reçu aussi le crème. Il y a une chrismation comme pour les rois. Et c'est ce qui permet aussi aux prêtres, au tonsuré, d'échapper à la juridiction civile. Vous l'avez dit, s'ils commettent un larcin, un crime, ils peuvent aller voir le tribunal de l'évêque.
Oui.
Et c'est l'enjeu de ces... Donc ils s'acharnent.
Et donc ils tapent sur la tête de l'évêque, sur la tonsure, carrément.
Exactement.
Hein.
Et les quatre donnent un coup, chacun d'entre eux. Il y a un côté conjuration.
C'est rituel, quasiment.
C'est rituel, voilà, tous les quatre.
Et la foule, comment réagissent les gens qui sont...
La foule est inquiète. Certains prêtres ont été très courageux, comme Édouard Grimm, qui porte sa croix, qui a interposé son bras, qui lui a été cassé par l'épée. D'autres ont été plus lâches, comme le grand Jean de Salisbury, qui est un grand intellectuel, mais qui n'a pas beaucoup de présence d'esprit à ces moments-là, qui se cache où il peut, derrière l'autel peut-être. Les gens sont très surpris. Et il y a donc, excusez-moi, c'est un peu gore, il y a le sang qui gicle, il y a le cerveau aussi, puisque il y aura par la suite un jeu entre le blanc du cerveau, qui est la couleur liturgique des confesseurs, et le rouge, qui est le sang des martyrs. Quand les prêtres récupèrent le cadavre, ils ne le lavent pas, contrairement aux coutumes funèbres de l'époque, parce que c'est un martyr, parce que son sang purifie son âme, le lave de ses péchés. Vous voyez, il y a l'idée de martyr. D'ailleurs, il y aura des débats chez les clercs, chez ces intellectuels. Est-ce que c'est vraiment un martyr ? On est martyr quand on donne sa vie pour le Christ.
Lui ne se considérait pas comme un martyr ? Et est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à imaginer que dans le parcours tout à fait unique qui est le sien, il estimait lui-même que le couronnement, en quelque sorte, du parcours, couronnement à la fois spirituel et temporel, c'était de finir en martyr d'une certaine manière, comme un certain nombre des pères de l'Église ?
Oui, peut-être ça lui a traversé l'esprit. C'est vrai que à la fin, quand il a vu que on allait vers ses dénouements, je pense qu'il s'est rendu à l'évidence qu'il finirait comme cela, parce qu'il jouait un jeu très très dangereux avec le roi, c'est certain.
Alors le roi, comment réagit-il ? Parce qu'il n'a pas donné l'ordre officiellement quand même de tuer Thomas
non,
Becket.
Non, pas du tout. Le roi est atterré quand il apprend la nouvelle. Il voit que tous ses efforts pour centraliser l'Église, pour l'amener vers son pouvoir, lui échappent du jour au lendemain. Il ne sort pas de sa chambre pendant 3 jours. Il ne veut voir personne. Il ne mange pas, il ne boit pas.
Il viendra même se flageller sur le parvis de la cathédrale de Canterbury un an plus tard.
Oui, tout à fait, sur le rituel de pénitence des rois du Moyen-Âge. Ils sont sans couronne, sans habits royaux. Ils sont en chemise, tout simplement, les pieds nus. Et on le bat de verge. Ce sont les prêtres qui le battent de verge. Et puis ce baiser de paix qu'ils n'avaient pas voulu échanger avec Becket pour entériner leur traité, eh bien, il l'échangera finalement avec l'évêque de Poitiers, Jean Bellemin, à titre posthume.
La postérité de Thomas Becket devient quelque chose d'extraordinaire. On va y venir dans un instant. Il est devenu un symbole extraordinaire dans son temps et dans toutes les époques suivantes, bien entendu.
Oui, c'est incroyable. Même jusqu'à il y a une quinzaine d'années, Charles Taylor ou plus, le tyran sanguinaire du Liberia, avait dit à l'évêque de Morovia, qui était un peu gênant, tu vas subir le même sort que Thomas Becket. Au moins, il avait des références historiques.
C'est un tyran cultivé.
Voilà, mais vous avez aussi le roi Henri VIII lui-même, qui a fait disperser les reliques de Thomas Becket, qui a interdit son culte à l'occasion de l'acte de suprématie de l'Église d'Angleterre de 1534.
Et une fois de plus, et c'est souvent le cas lorsque nous abordons ces périodes dans cette émission, une fois de plus, la grande question, c'est le pouvoir. Le pouvoir et sa répartition entre la couronne, l'autel et la papauté, qu'il ne faut pas oublier, qui est le troisième acteur de ce drame, hein, bien sûr.
Oui, absolument, puisque Thomas Becket appartient à un milieu intellectuel. Il a fait ses études à Paris, où les enseignants théorisent sur les deux glaives. Les deux glaives, il y a un passage de la Passion du Christ dans les évangiles qui est très étonnant, où en sortant de la scène, le Christ dit aux apôtres « Combien d'épées avez-vous ? » Et ils disent « 2 ». « Ça suffit », répond le Christ. Ils vont à Gethsémani, au jardin des Oliviers, et au moment où il est appréhendé par les serviteurs du grand prêtre, Pierre prend une de ses deux épées et coupe l'oreille de Malchus, l'un des serviteurs du grand prêtre. Et le Christ lui dit « Tu remets l'épée dans le fourreau, celui qui tue par l'épée périra par l'épée ». À partir de là, il y a une exégèse, il y a un commentaire de ce passage chez les intellectuels parisiens du XIIe siècle qui disent « il y a deux épées ». Pierre a les deux épées. Il y a l'épée de la force physique, de la coercition, l'épée temporelle, et puis il y a l'épée cléricale, ecclésiastique, de l'excommunication qui tue l'âme, qui est pire, c'est plus gênant.
C'est une mort plus totale.
Voilà, totale, vous allez en enfer pour l'éternité. Or, malgré tout, c'est Pierre qui a les deux épées. Il y en a une qu'il doit mettre dans le fourreau, mais c'est lui qui la délègue, vous voyez. Et il coupe d'ailleurs avec l'autre épée l'oreille de Malchus. Malchus, on dit à l'époque, c'est le roi. Donc il a la capacité d'interdire le roi de la parole de Dieu salvatrice. Donc vous voyez, il y a toutes ces théories qui sont dans l'air, qui ont pour nous l'avantage a posteriori de bien séparer le temporel du spirituel, même s'il y a une tendance théocratique, c'est-à-dire qui donne le pouvoir aux prêtres et qui délègue l'épée temporelle aux empereurs.
Je pense que nos auditeurs ont bien senti que cet après-midi, nous allons essayer de nous mettre un peu à la place de nos ancêtres et de pénétrer l'imaginaire médiéval.
Pain au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous recevez Martin Aurel, professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Poitiers, où il dirige le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, car nous sommes au cœur du Moyen-Âge. Cet après-midi, en 1170, l'archevêque Thomas Becket est assassiné, Franck.
On voit bien que vous n'êtes pas poitevine, contrairement à moi, Vanessa, parce que quand on parle du CSN, du CE. Bref, de ce voilà. Centre d'études médiévales, c'est le saint des saints pour les études du Moyen-Âge. C'est un endroit extraordinaire. C'est un privilège extraordinaire de diriger une institution pareille.
Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance.
Et vous avez bien sûr avec vous des spécialistes dans tous les registres.
Dans tous les domaines, surtout de la période 9e-12e siècle.
Oui. Alors, je parlais de ce film à l'instant. Il y avait des pièces de théâtre avant. Évidemment, qui ont meurtre dans la cathédrale. Il y a la pièce de Jean Anouilh à laquelle on a fait allusion. Bref, on comprend que ce meurtre de Thomas Becket va très vite devenir une sorte d'emblème, Martin Aurel. On va très au-delà de l'anecdote et de l'histoire elle-même. On entre là dans l'éternelle question du pouvoir, du rapport du temporel et du spirituel, en fait.
Oui, tout à fait. C'est dommage, Jean Anouilh, par exemple, est parti sur un conflit entre Normands et Anglo-Saxons. Comme si Becket était le défenseur des Anglo-Saxons opprimés face à l'invasion normande, ce qui est tout à fait absurde puisque il était normand, né vraisemblablement du côté de Tiercéville ou en tout cas il appartenait à une famille très normande. Mais c'est vrai que les rapports temporels et spirituels, puisque Eliot ou Anouilh lui-même ont très bien vu, c'est la conversion de cet homme, la fin d'une amitié de 15 ans qui s'effrite, ces passages de l'amour à la haine, de tempérament, de caractère démesuré, entier, qui s'affrontent. Tout cela est, bien entendu, promis à la fiction.
Alors, évidemment, on a beaucoup parlé de Richard Burton. Parlons un peu de Peter O'Toole, parlons un peu d'Henri II. Qui est-il, ce roi, qui n'est pas capable de voir en son ami un ennemi potentiel? Parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas senti le vent tourner, Henri II. Il n'a pas compris que son ami, que son conseiller, Thomas, était en train de prendre son indépendance et de se retourner contre lui.
Oui, vraisemblablement, tout réussissait. Enfin, c'est sûr, tout réussissait à cet homme. Comte d'Anjou, duc de Normandie, puis se retrouve tout à coup roi d'Angleterre.
Il avait épousé la belle Aliénor,
voilà,
entre-temps.
Aliénor d'Aquitaine, qui fait l'unité avec la grande Aquitaine. Donc, il est à la tête d'un empire colossal. Il réussit à écraser Louis VII, le roi de France, qui est impuissant face à son expansion territoriale. Et puis, tout à coup, il y a ces problèmes, ce poil à gratter qui l'empêche d'accomplir son œuvre, maîtriser aussi l'Église en Angleterre, qui est un État extrêmement à la pointe du point de vue administratif, fiscal.
Et oui, c'est que la conquête, je disais que la conquête normande, la conquête de Guillaume, est encore une chose très récente et que l'Angleterre vient d'acquérir une sorte d'État tout neuf, si l'on peut dire, hein.
Oui, qui avait l'expérience en particulier pour percevoir l'impôt, puisqu'il fallait payer des tributs aux Scandinaves, le Danegeld.
Les Normands étaient doués dans ce domaine. Oui.
Voilà, ils savaient les mathématiques, l'échiquier, qui était l'organe de perception fiscale. Donc, ils avaient une très, très grande avance. Et peut-être aussi lié à la personnalité d'Henri II, puisque très vite, il est allé aussi à l'affrontement avec son épouse Aliénor d'Aquitaine pour la maîtrise du duché d'Aquitaine, puisque c'était une forte femme qui ne voulait pas se laisser marcher sur les pieds, qui voulait confier à son fils, à leur fils, Richard Cœur de Lion, le duché, qui l'éduquait progressivement. Cet homme, donc, veut s'imposer sur tous les fronts. Et il y a une sorte de mégalomanie à la fin. Je pense que c'est lui qui a perdu vraiment la tête et qui pensait avoir tout le monde à sa botte.
Oui, ce personnage d'Henri II est lui-même assez mégalomane. On est en présence de deux très forts tempéraments, hein. Henri contre Thomas. Henri II, le roi d'Angleterre, a quand même des idées de grandeur, de puissance, de conquête assez extravagante. Rien ne l'arrête. Ce sont ses fils qui l'arrêteront un jour, mais plus tard.
Voilà. À la suite du meurtre de Thomas Becket, c'est une perte de prestige colossale pour Henri II et ses enfants qui avaient été justement éduqués par Becket, qui avait une dizaine d'années de plus qu'Henri II, leur père. Becket qui les a pris en tant que précepteur, qui leur a appris les manières, qui leur a appris à parler le latin, qui leur a fait fréquenter des gens extrêmement cultivés. Et en même temps, il avait l'œil, il contrôlait leur éducation militaire, puisqu'il ne faut pas l'oublier, Becket, c'est un chevalier hors pair. On sait qu'il a désarçonné un chevalier, un combat singulier dans une des escarmouches dans le Vexin français. C'était l'endroit où l'Île-de-France et la Normandie se battaient pour la frontière, qu'il est allé avec une troupe considérable, peut-être de 700 hommes, conquérir Toulouse en 1159. Il a été beaucoup plus jusqu'au boutiste qu'Henri II. Finalement, il a conquis trois châteaux personnellement dans le Quercy, qui est resté dans l'Empire Plantagenet, qu'il a apporté à son seigneur Henri II. C'était aussi, par les descriptions physiques que nous avons, quelqu'un qui avait une taille exceptionnelle.
Comment expliquer que ce chevalier, que ce guerrier extraordinaire se soit laissé abattre comme un agneau devant l'autel de sa cathédrale? Il y a eu entre-temps une conversion, c'est ça la grande question,
oui,
non?
Oui, c'est ça, il y a eu une conversion, autrement ça ne marche pas. Vous avez employé le terme agneau, il revient beaucoup sur les sources, l'agneau sacrificiel. Il y a une comparaison continuelle entre sa destinée auprès de l'autel et puis ce qui est en train de se passer tous les jours sur cet autel, la célébration de la messe, qui est le renouvellement du sacrifice du Christ sur la croix. Donc c'est un thème qui revient souvent dans les textes de l'époque. Mais je pense qu'il y a eu sincèrement conversion. Plus je travaille sur ces textes, aussi orientés soient-ils, parce qu'ils sont faits par ses amis, dans un but hagiographique pour montrer que c'est un grand saint, plus j'en suis convaincu.
Vous venez de prononcer le mot « un grand saint » parce qu'il a été canonisé, bien entendu.
Il a été canonisé 3 ans après sa mort.
C'est Saint Thomas Becket aujourd'hui.
Saint Thomas Becket. Et ce qui est très intéressant, c'est que la procédure de canonisation à la suite d'un procès, tel que nous la connaissons de nos jours, se met justement sur pied à l'époque d'Alexandre III.
Ça tombe bien, on va y revenir dans un instant pour répondre à la question de notre auditrice Lorraine. C'est un autre auditeur qui, via Facebook, Jacques, nous demande si on ne pourrait pas comparer les deux cas de Saint Thomas Becket d'un côté et Saint Thomas More de l'autre. Il faut peut-être rappeler en deux mots qui était Thomas More.
Thomas More est aussi le chancelier du roi d'Angleterre, qui s'appelle Henri VIII,
en l'occurrence.
Voilà. Thomas More, c'est un laïc. Hein. Il a été marié 2 fois après son veuvage. Mais cet homme n'a pas voulu accepter que l'Angleterre rompe avec Rome et constitue l'Église anglicane. Et il est allé jusqu'au bout. Il a été emprisonné plusieurs mois. Pendant son emprisonnement, il a commenté la Passion du Christ dans un très beau texte. Cet homme qui était un des grands intellectuels du XVIe siècle, qui fréquentait Erasme, entre autres, il se retrouvait sur l'échafaud. Or, Thomas More avait une grande dévotion pour Thomas Becket. Donc il y a 2 Thomas contre 2 Henri,
oui, c'est assez
curieux.
Extraordinaire, à quelques siècles d'écart. Merci infiniment Martin Aurel, nous vous laissons repartir pour le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers. Je renvoie nos auditeurs notamment à votre ouvrage « L'Empire des Plantagenets » qui est paru chez Perrin il y a quelques années. Merci beaucoup d'avoir éclairé pour nous cette question, somme toute déjà très lumineuse.
Et dans un instant, nous nous éloignons pas trop de notre thème du jour puisque Franck vous répondrait à la question de Lorraine qui veut en savoir plus sur la béatification et les origines de la canonisation.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui. Franck, c'est une question posée par Lorraine sur le site europe1.fr. Elle vous demande quelle est la différence et les origines entre la béatification et la canonisation.
Alors justement, vous voyez qu'on est dans la continuité immédiate de l'émission que nous venons de faire sur Saint Thomas Becket. La béatification, c'est la déclaration par décret pontifical qu'une personne a été une personne chrétienne exemplaire aux yeux de l'Église catholique. La canonisation, c'est également une déclaration pontificale, mais qui cette fois élève le fameux chrétien exemplaire au rang de saint. Et pour être canonisé maintenant, il faut être obligatoirement béatifié. Alors, c'est en 1588 seulement qu'on a bien distingué ces deux étapes de béatification et de canonisation. Et bienheureux celui dont le culte est reconnu pour un groupe déterminé de fidèles, tandis que le saint voit son culte étendu à l'ensemble de l'Église. La procédure de béatification est très longue, au moins une dizaine d'années, les critères sont très précis, il ne faut pas de miracle dans la vie spécialement de la personne, de l'impétrant, mais néanmoins il faut toutes sortes de critères, et la décision finale appartient bien entendu au pape. Ensuite, pour qu'un bienheureux soit canonisé, alors là il va falloir un certain nombre de conditions encore plus draconiennes, et notamment des miracles. Là encore, le pape a le dernier mot. Alors vous savez qu'il y a de plus en plus de bienheureux et de saints. C'est le pontificat de Jean-Paul II qui a battu tous les records, puisqu'on a connu sous Jean-Paul II 1338 béatifications et 482 canonisations. Depuis 2005, le pape Benoît XVI a estimé qu'on peut béatifier sans que le pape ne soit présent. En revanche, c'est bien le pape qui préside les cérémonies de canonisation. Voilà, j'ai dit à peu près tout, sauf que c'est en 1215 qu'on a interdit toute canonisation sans autorisation pontificale, et que cela venait précisément dans la foulée des procès qui avaient eu lieu à la suite de l'instance pour Thomas Becket. Justement, vous voyez comme tout se recoupe.